Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo de Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Affrontement entre Peul et Dogon dans le cercle de Koro, région de Mopti. Tabital Poulaku et Gina Dogon ont publié la semaine dernière un communiqué conjoint sur la question. Les deux associations Peul et Dogon condamnent ce drame qu'elles jugent inexplicable et exigent l'ouverture d'une enquête. Ce conflit avait fait plus de 30 morts. Quelle est la situation actuelle sur place? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit? Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette tension? Nos invités, honorable Idrissa Sankaré, membre de Tabital Poulaku, Mamadou Togo, membre de Gina Dogon, Adama Koulou-Bali, préfet du cercle de Koro, Lucie Bello, chercheur à l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Chers invités, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, le grand dialogue de ce soir réfléchit sur l'évolution des affrontements entre Peul et Dogon à Koro dans la région de Mopti. Nous avons déjà le préfet du cercle de Koro avec nous en ligne. Bonsoir, monsieur Koulou-Bali.
Bonsoir.
Alors, quelle est la situation actuelle sur place?
D'abord, je remercie vraiment la radio Tamani, vraiment de donner l'opportunité quand même d'édifier de façon générale le peuple malien et plus particulièrement vraiment les ressortissants du cercle de Koro. Par rapport à votre question, je pense que actuellement la situation vraiment s'est beaucoup améliorée. Parce que actuellement, il y a vraiment de l'apaisement total. Parce que, d'abord, il y a une délégation locale qui a fait des déplacements au moment des événements, suivie de délégation régionale conduite par le monsieur le gouverneur de la région de Mopti, et ensuite par une délégation nationale composée de 3 ministres. Donc, au vu de ces différentes visites sur le terrain, je pense que des solutions idoines quand même ont été trouvées. Et pour le moment, je pense qu'à l'heure où je vous parle, tout va bien au niveau du cercle de Koro par rapport à ce conflit entre les communautés Peul et Dogon.
Monsieur le préfet, quand vous dites apaisement total, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a plus de risque?
Je pense que pour le moment, quand même, je dis apaisement total pour le moment. Parce que déjà de l'État à la matière, en train de prendre des mesures pour quand même essayer d'apaiser toujours les esprits. En ce sens que, à notre niveau aussi, l'État a envoyé une force qui se trouve présentement à notre niveau et qui sera déployée sur le terrain pour quand même essayer d'être une force de tampon. Moi, ce n'est pas déjà bien déterminé. Et je pense qu'avec la présence de cette force, ça peut vraiment atténuer vraiment la situation. Raison pour laquelle je dis pour le moment la situation vraiment est normale.
Alors, monsieur Idrissa Sankaré, vous êtes membre de Tabital Poulaku. Est-ce que vous avez une lecture de la situation sur place là-bas?
Bon, effectivement, je confirme, en tout cas selon les nouvelles que nous avons. Mais si vous permettez, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux parents des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Donc, je disais, je confirme effectivement les propos du monsieur le préfet, selon les nouvelles qui nous parviennent. Effectivement, il y a de l'accalmie. Mais ça ne veut pas dire que il faut délaisser carrément la situation. Je suis ravi que les forces de l'ordre soient sur place, mais il ne faut pas que ça soit comme on est habitué, aller juste quelques jours, revenir, dire qu'il y a de la calme. Donc là, il faut faire beaucoup attention.
Mais quand le préfet dit qu'il y a apaisement total, est-ce que ça veut dire que les Peul et les Dogon se sont entendus, qu'il y a eu des discussions qui se sont compris maintenant?
Bon, il semble que la visite de la délégation gouvernementale qui avait été précédée par celle du gouverneur et de la délégation locale ont contribué à apaiser quand même les tensions. Mais comme je l'ai dit, il faut continuer aller vers la sensibilisation toujours. Et nous sommes, même étant à Bamako ici, nous sommes en train de le faire.
Monsieur Mamadou Togo, vous êtes de Gina Dogon. Est-ce que vous confirmez également que la situation est calme? Vous représentez la communauté Dogon.
Oui, merci de m'avoir passé la parole. Je commence par dire « Aouzou Billahi Minash Shaitan Razim ». Il faut chasser le diable partout où on est. Effectivement, je confirme ce que le préfet de Kourou a dit. Même tout à l'heure, en étant dans le salon, j'ai eu une conversation avec un de Kourou qui m'a dit que pour l'instant, la situation est calme. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce que calme aujourd'hui, demain, après-demain, ça peut, s'il y a des provocations de part et d'autre, ça peut s'envenimer. Donc, il vaut mieux surveiller ça comme du lait sur du feu.
Ouais. Alors, Madame Lucie Bello, vous êtes chercheur à l'Institut malien Recherche Action pour la paix. Vous avez mené une étude sur place. Quel est votre constat?
Je rejoins mes prédécesseurs pour dire qu'il y a d'accalmie. L'IMRAP suit de plus près la situation. Nous venons de mener une étude sur l'analyse des dynamiques de conflit et de résilience dans les deux cercles Bankassé-Koro. Le rapport vient juste d'apparaître. Donc nous voyons opportun de participer à ce débat pour donner notre avis là-dessus.
Monsieur Sankari, quelles sont les conclusions de la rencontre tenue le mercredi 28 juin qui a réuni Tabital Poulakou et Dina Dogon?
Voilà, comme le communiqué le souligne bien, ça a été une initiative des deux associations. D'ailleurs, ce n'est pas la première initiative. Bien avant cette année, Tabital et Dina Dogon ont eu à mener des actions de sensibilisation de ce genre. Et la conclusion, c'est que il faut nécessairement biser la spirale de violence en cours. Parce que ça ne s'explique pas entre deux communautés qui ont toujours vécu ensemble. Et l'une des mesures que Tabital et Dina Dogon a prise, c'est de...
Le bruit que vous faites avec... Voilà, merci.
Donc, l'une des mesures que Tabital et Dina ont prises, c'est d'effectuer une mission de terrain. Aller rencontrer nos parents, parce que ce sont nos parents. Aller les parler, leur dire que pour rien au monde, ils doivent tomber dans ce genre de violence. Donc, il n'est pas question de Dogon, de Peul. Il s'agit du peuple malien. Parce que si vous voyez, parmi les deux communautés là, il y a eu même des gens qui n'avaient rien à voir avec cet incident, qui ont perdu la vie, pour rien. Donc vraiment, Tabital et Dina Dogon sont déterminés à aller jusqu'au bout. D'abord une visite de terrain, ensuite insister auprès de l'État pour que l'impunité ne soit plus la règle.
Mais dans le communiqué, vous dites que vous condamnez ce drame que vous jugez inexplicable. Inexplicable pourquoi?
Inexplicable parce que c'est des gens qui ont vécu ensemble de tout temps. Il n'y a pas de Peul sans Dogon. Il n'y a pas de Dogon sans Peul. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes tous nés dans ces situations-là. Personnellement, moi je viens du cercle de Bankas. Je sais que les Dogons qui sont chez nous, j'ai même des homonymes, j'ai des amis de mon père, on fait tout ensemble. Les cérémonies sociales, nous les partageons ensemble. Ça ne s'explique pas qu'on aille jusqu'à prendre une arme et tuer celui avec lequel on est tout le temps ensemble. Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi nous le condamnons fortement.
Alors, Monsieur Togo, quelles sont les raisons de ce conflit? Monsieur Sangaré vient de le dire, vous vivez, les Dogon et les Peul vivent ensemble depuis longtemps. Et pourquoi? Quelles sont les raisons de ce conflit?
Bon, vous savez, dans une communauté, les gens vivent ensemble, mais souvent, il peut y avoir de petites choses, de rien du tout, qui peuvent faire que les deux communautés en viennent au drame que nous avons vécu. D'après les explications données, un chasseur, Dogon, revenait de foire et il était en compagnie de son fils, qui est donc supposé connaître les personnes du village, et il a été, a dit le fils, abattu par un Peul. Est-ce un règlement de compte ou on ne sait pas? Donc le garçon qui a eu la vie sauve a pu courir et aller alerter le village comme quoi son père a été abattu par un Peul. Le village s'est concerté et le lendemain matin a fait une descente dans les hameaux Peul. Et ce fut un carnage, dit-on, parce que on ne peut que prendre ce qu'on nous dit. N'étant pas sur le terrain, il nous est très difficile de dire oui ou de dire non. Seulement, la délégation gouvernementale qui a été a produit un rapport. Dans ce rapport, tous les éléments, le nombre de morts, les circonstances de l'événement.
Quel est le bilan déjà?
Bon, le nombre de morts, c'est 31 personnes. D'après la délégation, d'après le rapport que nous avons lu. Mais d'autres sources disent que c'est plus que ça. Tout ça, on le saura quand nous serons sur le terrain. Bon, toujours est-il que ce genre d'événement, je crois, dû au fait que l'administration n'est pas sur le terrain. Bon, je sais que du temps de nos parents, ce genre de conflit n'existait pas. Un peu a fait brouter ses animaux de passage dans un champ, mais on va chez le chef de village ou le chef de canton, on règle le problème. Mais en venir jusqu'à des tueries, mais ça c'est nouveau. Donc nous pensons qu'il y avait certainement un règlement de compte entre celui qui a été tué et son bourreau. Mais c'est ce règlement de compte, peut-être, je dis bien, entre guillemets, qui a été le facteur déterminant de cette tuerie-là.
Alors, Monsieur Adama Kouloubali, vous êtes le préfet du cercle de Koro, vous êtes sur place. Quelle est votre version des faits par rapport à l'origine de ce conflit?
Bon, je pense que je vous remercie, Monsieur Koulou. Et effectivement, comme Monsieur Togo vient de le dire, j'ai le nommé Suleiman Guindo, c'est un grand chasseur renommé dans la contrée. Bon, je crois que le vendredi, il venait du marché de Dunapé accompagné de son fils. Ce chemin faisant, je crois qu'il a été abattu par 3 individus. Et donc, comme M. Togo l'a dit, l'enfant s'est échappé et aussitôt il est parti informer le village qui s'appelle Godogudourou, qui relève de la commune. Et je tiens d'abord à préciser que le village de Dogon relève de l'arrondissement de Djangabou. Tandis que les villages Peul, c'est-à-dire Tafandala et Nagodien, relèvent de l'arrondissement de Djungani. Donc le vieux, le vendredi, en venant du marché de Dunapin avec son fils, chemin faisant, il a été abattu. Quand il a été abattu, son enfant s'est sauvé. Et ce dernier est parti au village, informer le village. Comme quoi son vieux vient d'être tué par des bandits armés. Et aussitôt, le village, comme il a dit, ils se sont concertés, ils se sont mobilisés maintenant à aller vers les hameaux Peul. Maintenant, arrivés là-bas, je crois qu'ils ont, ça je le dis, hein, ça n'engage que moi, ils ont fusillé sur des Peul. Parce que, qu'est-ce que vous pouvez le dire? Parce que c'est quand ils ont tiré qu'on a mené, j'ai été informé, aussitôt j'ai saisi le médecin-chef auquel on a envoyé l'ambulancier au niveau de ses amours pour vraiment faire venir ces blessés. Mais ces blessés étaient au nombre de 9 personnes qui étaient toutes des Peul. Mais effectivement, c'était des blessés légers. Il y avait seul un seul blessé grave qui avait été effectivement évacué à l'hôpital de Mineur, celui de Mopti. Donc quand je me suis rendu ici au niveau de l'hôpital et du CCRF pour vraiment voir les blessés, et on m'a fait savoir au niveau qui est fait, c'est des blessés légers, sauf un seul qui ne pouvait pas être traité au niveau de CCRF qu'il faut nécessairement amener à Mopti. C'est ainsi que les Peul, quand ils ont appris ce dépôt, et aussi, je crois qu'ils sont venus à la représailles. Donc, quand ils sont venus à la représailles, j'ai été informé, aussitôt j'ai fait un message au gouverneur. Et effectivement, on a envoyé, la région a envoyé une mission du militaire accompagné des gendarmes. Parce qu'avant l'arrivée de la mission, nous, chacun disait le nombre qu'il voulait. Mais présentement, on n'a pas d'informations fiables. Il a fallu que la mission vienne, qui se rend sur le terrain, et au retour de cette mission, que la gendarmerie nous a communiqué la liste de 27 personnes. Donc, et aussitôt, on a communiqué le nom de ces 27 personnes, Paul. Et du côté des Douan, c'était 4 personnes. Donc, ce qui fait un total de 31 personnes. Donc, quand j'ai reçu cette information, aussitôt, j'ai fait un message à la région, qui est Mariachi, pour informer du nombre de blessés, du nombre de morts. Tout ça, j'ai fait un message adressé au gouverneur. Maintenant, c'est le samedi, mardi, c'est le lundi, la mission régionale est venue avec vraiment toutes les forces de sécurité, toute la Riachi supérieure des forces de sécurité qui accompagne le gouverneur et que nous nous sommes rendus sur les lieux. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, effectivement, on s'est transporté d'abord du côté des Dogon pour pouvoir vraiment les produire des conseils et de dire de mettre fin à des hostilités, à de telles hostilités. Parce que ces gens, ils sont tenus de vivre ensemble. Ils sont là, il y a plus de 50 ans qui vivent ensemble.
Monsieur le préfet, nous allons revenir sur les actions qui ont été menées. Juste une petite pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, ce soir nous parlons de l'évolution des affrontements entre Peul et Dogon à Koro dans la région de Mopti et nos invités sont Honorable Idrissa Sankaré, membre de Tabital Poulakou, Mamadou Togo, membre de Djina Dogon, Adama Koulibaly, préfet de Koro et Lucie Bello, chercheur à l'Institut Malien Recherche Action pour la Paix. Madame Lucie Bello, vous avez mené une étude dans ce secteur. Qu'est-ce qui ressort de votre enquête par rapport à ces conflits intercommunautaires?
Voilà, bien dit. Les conflits intercommunautaires tournent autour de l'insatisfaction de la gestion des compétitions autour des ressources, que ce soit l'eau, la terre ou le pâturage. Tout tourne autour de ça. Je suis du cercle de Bankas, donc je vis la réalité de tout ce qu'on vient de dire là. Et autour de ça, nous pouvons peut-être lier les effets du changement climatique. Et la transformation sociale qui oblige les communautés à s'adapter, peut-être tout en pratiquant les activités de l'un et de l'autre. Si dans le temps, l'éleveur, ses tâches étaient l'élevage pur et simple, aujourd'hui, il cultive des champs. L'agriculteur, de retour, lui aussi, il élève des animaux. Donc, chacun utilise les mêmes espaces. Les espaces se réduisent et ce qui fait que chaque fois, les gens sont en conflit. C'est surtout cet aspect sur lequel on peut se baser.
Mais par rapport à l'aspect soulevé par M. Togo, par rapport à un règlement de compte entre les deux, le Peul et puis le Dogon qui a occasionné ce conflit communautaire, est-ce que vous pensez que ça pourrait être l'objet?
Oui, comme il vient de le dire, cet élément vient en apport. Ça rejoint un peu la question de l'insécurité. Peut-être on peut lier aussi à l'avènement de la crise du Nord, et ce qui fait que, disons avec la porosité des frontières de la zone, la circulation des armes ont fait que les gens se sont appropriés des armes. Et donc, les règlements de compte s'est vu couramment dans la zone. On a sillonné presque toutes les communes du cercle de Bankas et de Koro. Ce qui ressort pour tous les gens ont plus peur des règlements de compte dans la zone que même des problèmes décriés comme des problèmes de terrorisme ou de djihadisme, comme ils le disent. C'est surtout ces règlements de compte que les gens vivent.
Okay. Honorable Sankaré, depuis l'affaire de Sari qui aurait fait 25 morts lors d'un conflit intercommunautaire entre Dogon du Mali et Peul originaire du Burkina Faso en 2012, la situation ne cesse de se détériorer entre les deux communautés. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, comme l'a dit Lucie, le contexte a changé entre-temps. Si l'affaire de Sari était effectivement liée au foncier, depuis 2015, 2016, 2017, c'est autre chose. C'est l'insécurité, c'est l'absence de l'État. Donc,
c'est toujours les plus forts qui règlent son compte vis-à-vis des plus faibles. Si vous voyez, d'après les explications données, celui qui a été tué, c'est un chasseur, donc un porteur d'armes. Celui ou ceux qui ont tué sont également des porteurs d'armes parce qu'ils ont tué avec une arme. Ça veut dire que les armes circulent librement dans un espace où il n'existe pas d'État. Donc, ajouté à cela, les phénomènes de terrorisme, c'est vraiment les dégâts. Donc, avant d'aller plus loin d'ailleurs, c'est vraiment un règlement de compte parce que les informations que nous avons.
Donc, ce n'est pas une histoire entre communautés.
Non. Ce n'est pas une histoire anti-communauté, mais on profite de l'assassinat d'un seul individu pour régler les comptes à toute une communauté. C'est ça qui est très grave.
Donc, ça devient une affaire d'ethnie alors?
Bien sûr. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je dis que l'État doit faire en sorte qu'on arrête avec cette affaire de milices, que ce soit du côté Dogon, que ce soit du côté Peul. Aujourd'hui, ceux qui s'appellent chasseurs Dogon ou Bamara ou autres...
Il y a des milices Dogon et des milices Peul.
Il y a des milices Peul. Ceux qui ont tué, en tout cas, les chasseurs Dogon, sont supposés être des milices, que ce soit des terroristes ou autres groupes armés. Donc, il faut que cela s'arrête. Et puis, il faut que la population se dise que celui qui a tué est le responsable. On ne doit pas tuer sa communauté, son père, sa mère, du seul fait de ce type. Alors que c'est ça qui se passe présentement. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé à Malemana, c'est parce que des présumés Peul ont tué un Bambara. C'est ça qui a amené la furie. Si vous regardez du côté de Kemasina, c'est parce qu'un boutiquier Bambara aurait été tué par un Peul. Et ça a été une furie contre les Peul. Et le cas actuel également à Koro, c'est parce que des présumés Peul ont tué un sacerdoce Dogon, donc il faut tuer tous les Peul. Et si les Peuls aussi disent qu'un Peul a été tué, on va tuer tous les Dogon, voilà, c'est ça le dégât. Merci bien.
Monsieur Togo, est-ce que vous partagez cet avis de Monsieur Sankari?
Bon, je partage son avis un peu. Toujours est-il qu'il y a un phénomène, il y a un constat. Il a cité trois points ou trois coins là où il y a eu des affrontements. À la base de ces affrontements, c'est des Peuls. Si à Sari, c'était des Peuls contre les Dogons. Si à Djungani, c'est des Peuls contre les Dogons. Au Massina, à Kemasina, c'était des Peuls contre les Bambara. Vers Djenné et autres, c'était des Peuls contre les Bambara. Donc, partout, nous retrouvons nos amis Peul. Et si on parle de djihadisme, en tout cas, nous pensons que les Peul sont plus musulmans que les Dogons. Donc, les djihadistes, nous pensons qu'ils sont plus nombreux dans le camp des Peul que dans l'autre camp. Et ça, c'est...
Monsieur Sankari vient de dire qu'il existe également des milices Dogon.
Il a dit.
Est-ce que vous confirmez?
Je confirme qu'il y a un groupe qui s'est formé, des chasseurs, qui se sont déclarés chasseurs. Ils n'attaquent personne, ils ont dit. Mais quand on les attaque, ils réagissent. C'est une milice d'autodéfense. Ils ne provoquent pas, ils n'attaquent pas. Mais quand...
C'est ce qu'ils ont dit, mais dans les faits, est-ce que c'est la réalité?
Dans les faits, pour l'instant, c'est la réalité.
Alors, avant de donner la parole au juste invité, Monsieur Sankari, toujours avec vous, Monsieur Togo vient de le dire, les Peuls sont tout le temps cités dans les conflits intercommunautaires, en tout cas plusieurs fois avec les Bambara, avec les Dogons. Qu'est-ce qui explique cela?
Bon, contrairement aux Dogons, les Peuls sont partout. Ok? Que ce soit dans la région de Mopti, que ce soit dans la région de Kai, Koulikoro, les Peuls sont partout.
Mais les Bambara aussi.
Les Bambara aussi, sont mais partout. Pas les Dogons. Les Dogons sont...
Mais les Bambara ne sont pas très souvent cités dans les conflits.
Mais la zone, quand même,
les Peuls, pourquoi?
Tout à fait. Les Peuls, effectivement, c'est dû aux prêcheurs dont on cite les noms fréquemment, qu'on appelle Amadou Koufa, qui est peul. Donc, on pense que, puisque lui, il est présumé être, bon, même pas présumé, il est le leader de ce qu'on appelle le Front de libération des Massina. Donc, il est un peul. Donc, tout ce qui est lié au terrorisme, on pense que c'est le peul. Mais on a vu ici, vous pouvez le confirmer, des gens qui n'ont rien à voir avec des peuls, des Keïta, qui sont même cités comme étant des responsables de tel Katiba ou de Katiba. On a vu d'autres ethnies également. Donc, ça n'a, il faut que cet amalgame-là cesse. Donc, j'ai dit avec le doyen Togo que ces milices-là, ils se disent chasseurs, ils disent qu'ils n'attaquent pas, mais c'est le contraire. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une affaire de communauté. Que ce soit à Kemasina, que ce soit à Kourou, ce n'est pas une affaire entre communautés. C'est une affaire entre milices. Ceux qui se sont levés le 17 au matin pour aller attaquer les peuls, c'est des gens qui ont des fusils. Ceux qui n'ont rien là ne sont pas partis. Parce qu'ils ont tiré sur tous ceux qui bougent. Donc ce sont ceux qui ont des fusils qui sont partis tirer. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent le Mali savent qu'il n'y a même pas un lapin dans la brousse. Quand on prend son fusil pour aller, pour sortir, ce n'est pas pour aller tirer quelque chose. Donc, comme il a dit, c'est des milices d'autodéfense. Autant ça existe chez les Dogons, autant ça existe chez les Peuls. Mais ni eux, ils n'ont pas de mainmise, de maîtrise de ces gens, de leur milice. Bon, si je dis leur milice, c'est entre guillemets. Même nous, les Peuls aussi, cadres qui sont là, nous n'avons aucune maîtrise sur ces milices-là. Donc vraiment, c'est les dégâts.
Est-ce que vous voulez dire que c'est Amadou Koufa qui est derrière cet acte ? Ce conflit intercommunautaire.
Non.
Alors, donnons la parole à Monsieur Adama Koulibaly. Vous êtes le préfet de Koro. On parle d'absence de l'État, d'existence des milices dans le cercle de Koro. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, on dit milice, très généralement, quand on parle de chasseurs, on parle de milice. Sinon, en réalité, moi, je pense que tous mes prédécesseurs, ce qu'ils ont dit, de part et d'autre, chacun vraiment a ses raisons, mais par rapport aux milices, je pense que on peut quand on dit pas déjà du chasseur, on a des chasseurs chez les Peuls, on a des chasseurs chez les Dogons. Donc par conséquent, on peut conclure qu'effectivement, si ces chasseurs constituent des milices, on peut dire qu'au niveau de toutes ces deux communautés, qu'il y a des milices. Parce que chacun agit avec les armes. Dès l'instant qu'ils agissent avec des armes, on suppose que bon, c'est des milices, à ma connaissance. De mon point de vue.
Par rapport à l'absence de l'État.
Hein?
Par rapport à l'absence de. Une des raisons également de ce conflit également, c'est l'absence de l'État.
Par rapport à l'absence de l'État, en fait, parce qu'il y a l'insécurité totale. C'est ce qui fait que les sous-préfets qui doivent être là-bas sont effectivement au niveau local, c'est-à-dire au niveau de Koro. Mais de temps en temps, ils passent pour décider leurs arrondissements. Sans pour autant dire qu'effectivement, bien qu'ils soient au niveau de Koro, mais ils ont toutes les informations, parce qu'ils ont des répondants au niveau de l'agencement qui les informent au plus ambitieux. C'est ce que j'ai dit. Quand il y a eu cet incident, on a été informé par ces répondants-là. Donc, bien que l'État est absent là-bas, mais je peux dire que l'État n'est pas absent là-bas, parce que l'État, les sous-préfets étant à Koro, ils ont toutes les informations chaque jour.
Mais n'étant pas sur place, comment ils arrivent à gérer la situation?
Là, c'est ce que j'ai dit. Chaque fois qu'il y a ils ont des répondants au niveau de ces arrondissements. Chaque fois que ça ne va pas, c'est les répondants qui les tiennent informés par téléphone. Et moi, étant leur chef, ils m'informent. Et aussi, à mon niveau, j'informe à qui croit. C'est mon chef hiérarchique. C'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que les forces de sécurité maliennes également sont présentes là-bas?
Hein?
Est-ce que les forces de sécurité maliennes sont présentes là-bas, l'armée malienne?
Au niveau du cercle de Koro, c'est vraiment un manque criant d'effectifs, pas au niveau de la gendarmerie qu'au niveau de la garde. Au niveau de la garde, ils sont au nombre peut-être même pas 6 personnes. Et au niveau de la gendarmerie, ils sont au nombre de 18 personnes. Vous voyez un cercle, un grand cercle comme Koro, un cercle frontalier par surcroît, vous voyez l'effectif. L'effectif n'est pas insignifiant par rapport à la position géographique, par rapport au cercle lui-même, en fait. Donc, si vous me demandez vraiment la sécurité, je dirais que vraiment, c'est un manque d'effectifs au niveau du cercle de Koro.
Monsieur Bello, vous êtes chercheur à l'Institut malien Recherche Action pour la Paix. Vous avez toujours mené une étude par rapport à cette question. Vous avez soulevé l'absence de l'État, comme il a été dit tout de suite, l'existence des milices d'autodéfense. Alors aujourd'hui, est-ce que la situation ne s'empire pas?
La situation ne s'empire pas. En fait, avec l'absence de l'État, la situation peut s'empirer. Comme ils l'ont dit, les forces de défense de sécurité n'ont plus cette crédibilité même aux yeux de la population, dû à beaucoup de facteurs.
Notamment
on peut même citer le fait même de protéger l'identité des informateurs qui manque, c'est-à-dire dans l'œuvre même des forces de défense de sécurité, la population n'a plus eu confiance aux actes qu'il pose.
Les actes comme quoi?
Les forces de défense de sécurité sont là pour la protection de la population. Et la zone, comme je l'ai dit, avec la porosité de la frontière et avec la crise de 2012, les armes ont circulé dans la zone tout au long de la bande. Et les gens se sont appropriés. Donc ce qui fait que aujourd'hui, dans la zone où il n'y a pas des forces de défense et de sécurité, tu n'es pas à mesure d'indexer quelqu'un que tu supposes être peut-être un bandit, comme il le qualifie. Tu ne peux pas le prononcer au cas où les forces de défense et de sécurité ne pourront pas protéger toi, ta sécurité. Tu es obligé de te taire. Et donc quand l'honorable avait parlé de représailles, c'est dû à ça. Du fait qu'il y a d'une mauvaise gestion des différents entre les différentes communautés.
Mauvaise gestion
par l'État. Ce qui fait que la population elle-même se donne justice.
Mais si l'État n'est pas présent, comment il va gérer ça? Comment vous pouvez parler de mauvaise gestion?
Qui doit sécuriser la population?
Les forces armées. Ok. Alors, monsieur Adama Koulibaly, tout de suite, Lucie annonce que ce sont les forces de sécurité maliennes également qui ne jouent pas leur rôle, la population également n'a plus confiance aux forces de sécurité maliennes concernant les actes qu'elles posent.
Bon, moi, je pense que, comme je l'ai dit, le problème au niveau des forces de sécurité et de défense à Kourou, singulièrement à Kourou, c'est le manque d'effectifs. C'est le manque d'effectifs. Vous le savez autant que moi. On ne peut pas envoyer dans une zone comme Koro, où l'insécurité sévit là-bas, un ou deux éléments. Vous voyez ce que ça fait. Mais s'il y a un effectif conséquent, je pense qu'on peut quand même essayer de. On trouvera, on peut quand même. Pallier vraiment cette insécurité-là.
Mais elles sont accusées ici de poser des actes qui font que la population n'a plus confiance en elles.
Bon, peut-être que vous m'excusez, peut-être que ça m'engage que madame, mais je sais qu'en tout cas, là où je suis d'accord avec elle, parce que chaque fois qu'il y a quand même un problème au niveau des villages et que vraiment la gendarmerie ou les gars sont interpellés, c'est le même problème qui se pose. C'est le manque d'effectifs que ces forces de sécurité de défense nous disent. Que vraiment, il n'y a pas d'effectifs. C'est ce qui fait que moi, j'ai à longueur de jour, je ne fais que crier par rapport à cet effectif pour qu'on puisse bien vrai que le gouverneur a la volonté quand même de nous donner cette tâche. Mais je pense que c'est ce problème qui pose problème au niveau de Kourou. Même quand, avec l'arrivée de ministres, en conclusion, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut nécessairement un effectif conséquent, des moyens logistiques conséquents, et effectivement, même s'il y a possibilité de créer un poste ou un camp militaire à Kourou. Je crois qu'avec ces trois facteurs, je crois qu'on pourra quand même mettre fin à cette insécurité au niveau du fait de Kourou.
Par rapport aux solutions, monsieur honorable Idrissa Sangaré, quelles sont les actions qui sont prévues?
Bon, j'ai dit que il faut d'abord que l'État s'assume. Au début, le préfet avait commencé à dire que l'État est présent. Heureusement, il a fini par reconnaître que l'État n'y est pas. Un sous-préfet n'est pas fait pour être basé au niveau cercle. Le sous-préfet de Djougani doit être à Djougani. Le sous-préfet de Diankabou doit être à Diankabou. Et cette situation perdure depuis un bon bout de temps, depuis plus d'une année, depuis deux ans. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas de force de sécurité. C'est un no man's land pratiquement. Mais dans ça, chacun va faire ce qu'il veut. Donc s'il y a un premier responsable dans cette situation, c'est l'État. Il faut que l'État s'assume. Il y a eu Malimana, à ma connaissance, jusque-là, il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu Kemasina. Il n'y a même pas eu d'arrestation à Kemasina. Après une trentaine de morts. Tout de suite, à Koro, à ma connaissance, il n'y a eu aucune arrestation. Donc, on doit arrêter avec l'impunité. Qui viole la loi doit répondre devant la loi. Mais il faudrait-il que l'État aussi soit là. Je suis d'accord avec madame que les forces de sécurité également ne jouent pas pleinement leur rôle. Moi, je fais partie des députés qui ont exigé à ce qu'il y ait l'opération Seno. Mais finalement, ça a été un fiasco. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur des forces de sécurité que des djihadistes. C'est dû à leur comportement. Donc la solution, un, il faut que l'État s'assume, que l'État soit présent. Et les forces de l'ordre qu'ils ont envoyées l'autre jour, je sais que dans quelques jours, elles vont replier. Et le coin sera laissé à lui-même. Il n'y a même pas de téléphone là-bas. Il n'y a même pas d'antenne sous tellement ou mal tel. Depuis des mois, l'administration le sait. Ils n'ont rien fait. On ne peut même pas communiquer. S'il faut que le sous-préfet, on l'informe pour que, oui, il y a ça, que lui, il est à 100 km, 50 km, ça ne marche pas. Ça, c'est l'impunité. Il faut finir avec ça. Deuxièmement, les actes de sensibilisation que nous qui sommes là, leader Dogon, leader Peul, il faudrait que nous nous impliquions. En prenant pas parti. En allant dire que simplement c'est notre terroir, ce sont nos populations, et les parler de vive voix. Ils arrêtent. Et également, l'autre solution, c'est de sensibiliser les deux communautés à éviter de l'amalgame. L'amalgame, c'est quoi? Un peul a fait ça. Donc, je frappe tous les peuls avec le même bâton. Ou bien un dogon a fait ça, le peul frappe tous les dogons avec le même bâton. C'est ça. Merci bien.
Monsieur Togo,
oui.
Les solutions, selon vous?
Bon, les solutions, selon moi, excusez, je vais faire un petit retour en arrière. Vous savez que l'honorable a parlé de circulation d'armes, c'est vrai. Et là, au lendemain de Kona, quand monsieur le président Hollande a envoyé la force servale, je crois, pour anéantir la marche des djihadistes, et que ces djihadistes se soient évanouis dans la nature, nous avons saisi les plus hautes autorités. Guinéa Dogon a écrit au Premier ministre, au ministre de l'administration territoriale, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité intérieure, en disant ceci: les suppôts des djihadistes sont parmi les Dogons comme parmi les Peuls, et qu'il y a lieu que l'État fasse un effort pour récupérer les armes de guerre qui circulent. Sinon, le jour où il y aura un affrontement, ce sera très grave. Et je ne sais pas si vous avez vu à la télé, les douilles qu'on a vues, c'est des douilles d'armes de guerre. Ce n'est pas des fusils de chasse. Nous pensons que certains utilisent les fusils de chasse, mais d'autres utilisent les armes de guerre. Ça se dit au fait que l'État n'a pas retiré les armes de guerre à ceux qui les ont obtenues des mains des djihadistes qui se sont évanouis dans la nature. Et si cela était, peut-être que l'État pourrait facilement réoccuper le terrain sans crainte de se voir éliminé comme nos chefs d'arrondissement le croient. Mais je dis, dans ma commune, mon chef d'arrondissement ne couche pas à Kourou, mais il couche à Kopro, dans la commune. Oui, bien. Donc, le manque d'État est à la base de beaucoup de choses présentement en République du Mali. L'indiscipline, parce qu'il y a l'impunité. Impunité, parce que l'État ne joue pas son rôle régalien.
Okay. Lucie Bello, selon vous, qu'est-ce qui peut mettre fin à ces conflits intercommunautaires?
Les éleveurs et les agriculteurs sont des alliés naturels. Personne n'a demandé à être voisin de l'autre. Nous sommes demandés à vivre ensemble. Comme l'honorable a le dit, il nous faut aller au dialogue. Moi, je pense que la récupération des armes est nécessaire. Mais dans ces périodes, il serait bien que les deux fêtières jouent leur rôle d'amener leur communauté au dialogue. Ce serait plus important. L'Institut malien de recherche action pour la paix mène des dialogues. Nous, nous sillonnons, mais ce n'est pas suffisant. Nous invitons toutes ces communautés en dialogue. Je me rappelle une fois, on a été dans une commune, je ne vais pas citer le nom, on voulait mener un espace hétérogène entre éleveurs, agriculteurs et tous. Mais les agriculteurs ont eu peur, ils nous ont dit ils ne veulent pas que les éleveurs tiennent des dialogues avec eux dans le même espace parce que pour eux, ils ne vont pas finir en bon. Donc c'est pour dire que le dialogue est nécessaire. Nous avons tous un regard méfiant l'un vers l'autre. Et tant que nous n'allons pas au dialogue, aux sensibilisations, les gens ne prendront pas terre. Les armes.
Monsieur Adama Koulibaly, Monsieur Sankaré l'a demandé tout de suite qu'il faut que l'État s'assume et qu'il faut également ouvrir des enquêtes par rapport à tous ces conflits communautaires. Est-ce que ces enquêtes sont en cours?
Bon, je pense que moi, à ma connaissance, je crois que depuis le passage de la délégation ministérielle, on a demandé aux forces de sécurité d'ouvrir l'enquête. Et je pense que à l'heure où nous sommes, l'enquête est déjà en cours. Secondo, je pense que pour mettre fin, pour trouver la solution à ce fléau, moi je pense que je retiens quatre points essentiels. D'abord, il faut la sensibilisation. Il faut que l'association Dinat Dogon et Papa Kapal et l'administration se donnent la main pour continuer à sensibiliser les différentes communautés. Avec la sensibilisation, moi je pense que même là où nous sommes, c'est à cause de la sensibilisation de la mission ministérielle et de la région de Mopti qui font que là où nous sommes, il y a l'apaisement. Et je pense que je souhaiterais que vraiment que ces deux associations, plus l'administration, continuent à sensibiliser vraiment les communautés. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que je demanderai à ceux que vraiment que Kourou soit. Je parle Kourou parce que c'est
un plus vite un peu, monsieur le préfet.
Oui, je suis le préfet responsable. Donc,
vous avez 10 secondes pour citer les deux autres points.
Oui, vous voyez. C'est ce que j'avais dit. Maintenant, le deuxième point, c'est que on voudrait que vraiment qu'il y a un poste de sécurité. Un poste de sécurité, forcément un poste de sécurité, soit au niveau de Kourou ou à Dinangourou.
Le troisième point.
Le troisième point maintenant, comme je l'ai dit, il faut un poste ou un camp militaire à Kourou ou à défaut à Dinangourou, qui est à 120.
Merci donc, monsieur Koulibaly, et c'est ce qui met fin à cette émission. Je vous l'avais annoncé, on parlait d'affrontement entre Paul et Dogon. Quelle évolution! Nos invités honorables Idrissa Sankaré, membre de Tabital Poulakou, Mamadou Togo, membre de Dinat Dogon, Adama Koulibaly, préfet de Kourou, Lucie Bello, chercheur à l'Institut malien Recherche Action pour la paix. Je suis Mouhamadou Touré, débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde de Nouhoum Djiré, régie vidéo Peting Diara. À demain pour une nouvelle émission. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumande.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.